le sacrifice interdit avec un jeu de mots dont j'espère montrer qu'il n'est pas tout à fait gratuit et que donc on peut même mettre ce jeu de mots au cœur de notre réflexion concernant ce soir celui qui est présenté comme le père de la foi. Abraham, le père dans la foi. Père dans la foi parce qu'il en est la source. Source combien précaire, puisque il est le père d'un unique fils. Donc on peut dire que quand même, si de cette source doit couler un fleuve et un peuple abondant, la source, elle, n'est qu'un très mince et fragile filet. Nous aurons à réfléchir sur cet aspect du texte. Il est la source de la foi et il en est le modèle. Un modèle bien peu idéalisé, puisque ce brave Abraham, par deux fois, est coupable de graves mensonges, prostitue sa femme. Le père de la foi n'est manifestement ni très fécond, ni très modèle. Ce qui est évidemment le paradoxe même devant lequel l'Écriture nous place et que nous allons essayer d'approcher un peu ce soir. À suivre de près le récit d'Abraham, comme je vais essayer de le faire, on comprend que la foi transparaît dans la mise à l'épreuve et qui ne peut avoir de réponse que dans la confiance absolue en Dieu. Et donc si Abraham est père et modèle de la foi, ce n'est pas par ses vertus, mais par l'abandon à la volonté de Dieu et à la soumission à cette volonté. En outre, il est intéressant de noter que, après avoir évoqué les figures d'Adam ou de Noé, avec Abraham, nous entrons dans l'histoire. Au début de nos rencontres, j'ai insisté sur le fait que si nous avions pris des figures, c'est parce que nous voulions souligner que la foi ne passe pas par un dogme, mais passe par des récits, c'est-à-dire des événements qui auraient pu se passer autrement. Et qui auraient pu se passer autrement parce qu'ils sont des événements qui sollicitent des libertés humaines. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai de l'histoire d'Adam ou de l'histoire de Noé qui, manifestement, ont une coloration mythique, c'est-à-dire d'un modèle qui échappe à la contingence de l'histoire. En revanche, avec Abraham, nous rentrons dans l'histoire. Il va y avoir des noms géographiques. Il va y avoir des batailles dont l'issue n'est pas certaine. Il va y avoir des généalogies. Et donc, il me semble que c'est en rentrant dans l'histoire que on pénètre un peu plus profond dans la compréhension de la foi comme la relation à Dieu exposée au temps, la relation à Dieu dans la temporalité. On est toujours surpris de penser que Dieu puisse apparaître, puisse se donner aux hommes dans un moment de l'histoire. On pourrait même se demander pourquoi Jésus serait-il né sous le règne d'Auguste et mort sous le règne de Tibère. Il aurait aussi bien pu naître sous le règne de Hollande et mourir, on ne sait pas. Puisqu'il est Dieu, puisqu'il est l'absolu. Mais c'est justement l'enjeu de la foi. L'enjeu de la foi, c'est que l'absolu se manifeste dans l'historicité, dans la fragilité des réponses humaines, dans la fragilité des initiatives humaines. Et passant d'Adam à Noé et à Abraham, nous rentrons un peu plus dans ce tissu historique et humain dans lequel donc la question de la foi se pose dans toute sa force et sa fragilité. Pour les chrétiens, Abraham est père dans la foi, selon Saint Paul et selon le Nouveau Testament. Cependant, dans le Nouveau Testament, on insiste, que ce soit l'Évangile selon Matthieu ou Saint Paul dans l'Épître aux Galates, sur le fait que cette descendance d'Abraham n'est pas une descendance charnelle, n'est pas une descendance dans le sang, dans la chair, et que si nous pouvons dire Abraham notre père, ça n'est pas dans la mesure où nous serions de sa race, mais au contraire parce que la promesse à Abraham s'est étendue en dehors de la race, en dehors de la filiation charnelle et de la filiation du sang et de la semence. Et c'est d'ailleurs ce que nous verrons d'emblée dans le texte de la Genèse que nous allons parcourir. Et Abraham est père dans la foi, mais non pas dans le sang, et il est père dans la foi et également non pas dans la loi. Car nous allons voir que la figure de la loi, la première figure de la loi qui apparaît dans Abraham, c'est la circoncision, et que les chrétiens, qui ne sont pas du sang d'Abraham, se sont également émancipés des obligations légales liées à la circoncision. C'est pourquoi l'interrogation qui sous-tend les propos que je vais tenir ce soir, c'est bien celle de la signification de la foi d'Abraham pour un chrétien. Comment peut-il apparaître comme le père et le modèle de la foi, la source et le modèle de la foi? Rappelons, j'évoquais l'Évangile selon Matthieu. Ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, Dieu peut faire des pierres que voici, peut faire surgir des enfants à Abraham. » Et saint Paul, dans l'Épître aux Galates, dit « Ainsi Abraham crut-il en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Comprenez-le donc, ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, et non pas par le sang ou par la loi, je relis. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, « En toi seront bénies toutes les nations. » Voilà les enjeux de l'histoire que nous allons parcourir ensemble. Alors, je vais me montrer un peu superficiel et négligent en ne prenant pas tous les aspects de cette histoire. Je vais procéder en morceaux choisis. Ça ne se fait pas. Mais je bénéficie d'avoir une parole sans autorité, donc je me permets de faire des morceaux choisis et d'y prélever une interrogation qui doit peut-être plus à la philosophie qu'à la théologie. Voilà, c'est une lecture sans autorité. D'ailleurs, je pense que Frédéric, bien qu'il soit bien plus savant que moi, serait d'accord pour dire que ces lectures que nous proposons sont vraiment des lectures sans autorité, c'est-à-dire que nous n'engageons pas là-dedans la parole de l'Église ni les fondements théologiques de la foi. On y hasarde une petite voix de philosophe. Je développerai quatre points, si Dieu me prête vie. Le premier portant sur le thème de l'appel et de l'alliance. Le deuxième sur le thème de la naissance d'Isaac. Le troisième, comme promis, portera sur le sacrifice. Et puis, ceux qui me connaissent ne s'étonneront pas que le quatrième porte pour titre l'éloge d'Abraham, titre de Kierkegaard. Et donc nous ouvrirons quelques pages de Kierkegaard pour terminer cet effort de lecture. Je commence par l'appel d'Abraham et l'alliance. En lisant les différents moments où Dieu s'adresse à Abraham, puis à Abraham, puisque vous savez qu'il sera rebaptisé, et signe en quelque sorte à celui-ci une promesse et une alliance dont il y a plusieurs versions au fil des chapitres. Je lis les différentes versions. Au début du chapitre 12, on peut lire. Yahvé dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Je ne pourrais pas tout commenter, mais vous voyez d'emblée, dans cette première parole de Yahvé à Abraham, une tension. Je ferai de toi un grand peuple. Et puis, la promesse se termine. Par toi se béniront tous les clans de la terre. On a donc une dialectique du peuple et des nations, d'un peuple particulier et d'une promesse faite aux nations. Une dialectique du singulier et de l'universel. Et c'est pourquoi il est très intéressant et tout à fait essentiel que la source originelle soit si ténue, si singulière, un seul bonhomme avec un seul fils, auquel est promis une destinée universelle. Deuxième formulation de l'Alliance, au chapitre 13, « Lève les yeux, c'est Yahvé qui parle, lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et vers le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. » Ça fait du monde. « Debout, parcours le pays en long, en large, car je te le donnerai. » Troisième formulation de la promesse au début du chapitre 15. « Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur, que me donnerais-tu ? Je m'en vais sans enfant. » Parce que ça fait un moment qu'il attend que la promesse soit réalisée. Des dizaines et des dizaines d'années, il attend que la promesse soit réalisée. Bon, il faut être patient. « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Alors cette parole de Yahvé lui fut adressée. « Celui-là n'est pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. » Et lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. C'est l'expression que reprend saint Paul dans le passage que nous avons lu. Enfin, au chapitre 17, lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit, « Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre toi et moi, et je t'accroîtrai extrêmement. » Abraham tomba la face contre terre. Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations, et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Abraham signifiant père très digne, très élevé, paraît-il, et Abraham signifiant donc père d'une multitude. « Car je te fais père d'une multitude des nations, je te rendrai extrêmement fécond. » Bon, ça se fait attendre. « De toi je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. » Je souligne quelques traits de ces différentes formulations de la promesse faite à Abraham par Dieu. D'abord, pour que partager avec vous l'étonnement devant le fait que c'est Dieu qui promet et qu'à Abraham, il ne demande rien. Abraham n'a rien à promettre, aucun serment à faire, aucune vérification de son allégeance et de sa confiance. L'initiative est tout entière de Dieu. Ce point est essentiel pour comprendre la réalité de la foi. On n'entend pas de plaintes mélancoliques d'Abraham se disant « Je suis mal en Chaldée, il faudrait que j'aille ailleurs ». On n'entend pas de plaintes mélancoliques, ou pas trop de plaintes mélancoliques d'Abraham se disant « J'aimerais bien avoir une descendance ». Non, la foi ne résulte pas du manque de l'homme. Elle ne procède pas d'une inquiétude, d'une soif, d'une mélancolie qui ferait que Abraham rêverait d'un ailleurs, rêverait d'une postérité et trouverait dans la réponse que Dieu lui fait une satisfaction à son attente. L'appel de Dieu à Abraham n'est précédé d'aucune demande. Et plus, donc, comme je le disais, la promesse n'est pas celle d'Abraham, c'est Dieu qui se lie, ça n'est pas Abraham. Et qui se lie à plusieurs reprises dans cette histoire. Seulement, où est la foi d'Abraham ? Ben, la foi d'Abraham, c'est le sort que nous partageons tous, c'est qu'il est dur de croire à une promesse. Il est plus dur de croire à une promesse, il est plus dur de croire que de grandes choses se feront que d'avoir à surmonter une épreuve. C'est ce qui se passera à nouveau pour la Vierge Marie. Par toi s'accompliront de grandes choses, par toi naîtra le Sauveur. Moi, je suis prêt, ou vous êtes prêt à écouter si on vous dit « Vas-y, ça va être difficile, tu vas en baver, ça va être une épreuve. Je vous connais, vous lèveriez, vous diriez « Je suis prêt ». Plus ça serait difficile, même plus vous seriez content. Mais là, on ne nous promet rien de difficile. Il est très difficile de croire à une promesse qui coule d'une évidence et qui n'exige rien en retour, et qui, dont finalement la seule épreuve est d'y croire. Ce qui, évidemment, est le lien fondamental. Donc, la racine de la foi, c'est celle de la fidélité, c'est celle qui permet à une personne de se lier à une autre, de prêter sa foi à, de donner sa foi à. Et donc la réponse d'Abraham, est, si Abraham est père de la foi, c'est qu'au fond, sa réponse, elle est dans la foi et l'espérance qu'il met dans la réalité de cette promesse. La foi, dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, c'est de croire au bien que l'on espère. Croire au Père Noël, en quelque sorte. De croire au bien que l'on espère. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est amusant. C'est pas très... il faut d'abord se plonger devant cet étonnement pour comprendre la portée de l'histoire d'Abraham. Deuxième remarque, cette promesse scelle une alliance. Alors, je n'ai pas lu tous les passages. Vous connaissez le passage où, par exemple, Abraham partage des animaux en deux dans une cérémonie de sacrifice, ce qui est un geste classique des alliances à l'époque. Une alliance, c'est bien plus qu'un contrat. Et donc, parce que le contrat permet d'échanger des biens, d'échanger des pouvoirs, de négocier des rapports de force. Mais le propre d'un contrat, c'est qu'il peut être rompu. Tous nos contrats portent essentiellement sur les clauses de rupture pour permettre de se quitter bons amis. Une alliance, c'est une réalité bien plus essentielle et charnelle que celle d'un contrat, puisque ce qui s'y lie, ça n'est pas des biens, des pouvoirs, des rapports de force, mais des personnes. Et que le don des biens, enfin, le don des personnes, lui, est irréversible, alors que les biens peuvent à la rigueur s'échanger, se reprendre, et que, au terme d'un contrat, on peut reprendre ses billes. L'alliance scelle une unité qui est plus essentielle que celle que peut permettre une quelconque forme de justice. Et c'est en ce sens que dans le récit d'Abraham, on peut comprendre que se fonde un peuple. Vous voyez, le peuple ne se fonde pas sur le contrat comme les métaphores modernes le penseront, mais il se fonde sur l'alliance des hommes avec Dieu, alliance qui donne un fondement à l'unité de ce peuple au-delà de la coexistence des volontés et des négociations, des rapports de force. Donc l'alliance fonde, pour reprendre une distinction familière aux philosophes et qui devient maintenant bien connue, l'alliance fonde une communauté, pourrait-on dire, alors que, en cela, un peuple est une communauté, alors que le contrat fonde une société, plus ou moins anonyme, et qui s'envisage dans sa possible dissolution. Cette alliance entre Dieu et Abraham, je disais, elle est curieuse en ce qu'elle vient de l'initiative de Dieu et non pas de l'attente d'Abraham dont on ne sait rien. D'autre part, elle instaure entre Dieu et l'humanité un rapport qui est celui de la loi. Il y a un peuple est fondé sur une loi, mais la loi qui le lie donc à l'absolu. Et là aussi, c'est un apport biblique fondamentalement original et nouveau que le rapport des hommes à la divinité soit un rapport de loi. C'est-à-dire que Dieu puisse attendre quelque chose des hommes. Ce qui est exprimé sera exprimé avec force dans le Décalogue, ce qui ici n'apparaît qu'à travers la transformation du nom, le baptême d'Abraham devenu Abraham, et puis dans la figure de la loi qu'est la circoncision. Troisième aspect que je voulais décrire de ces promesses réitérées, Abraham ne discute pas, il part pour Canaan. Ça veut dire qu'il accepte de confier sa vie à Dieu, il accepte de croire à la promesse. Cette promesse comporte deux termes, donc promesse dans laquelle c'est Dieu qui s'engage. Cette promesse comporte deux termes, une terre, une descendance. Je te donnerai cette terre, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest, tout ce que tu peux regarder, je te le donnerai, ça sera ta terre, ça sera la terre de tes descendants, etc. Et puis je te donnerai une descendance plus nombreuse que les grains de poussière, plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. On peut rester encore dans le caractère fortement paradoxal de cette double promesse, car de terre, bien qu'il soit obéissant et bien qu'il soit parti pour Canaan, Abraham n'en aura pas. Il va, au bout du compte, errer, pousser de ville en ville, de hasard en hasard. Et la condition d'Abraham restera une condition de nomade. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire au moment de la mort de sa femme Sarah. Car au moment de la mort de sa femme Sarah, il s'adressera aux autochtones en leur disant « Je suis étranger chez vous ». Donc la terre, il ne l'a pas vraiment eue. Non seulement il dit « Je suis étranger chez vous », mais il dit « Il me faut une terre pour enterrer ma femme et pour que j'aie ma propre tombe. Et donc, Abraham, pour toute terre, aura sa tombe. La seule terre qu'il acquérera, contre monnaie d'ailleurs, c'est sa tombe. Son seul séjour sédentaire, il est vrai que ça a un bail assez long, son seul séjour sédentaire, donc c'est cette tombe qui est donc le mausolée des patriarches qui se trouve à Hébron, enfin qui est vénéré à Hébron. Terre sacrée pour les juifs comme pour les musulmans. Donc, bien sûr, une terre lui est promise, mais sur cette terre, il n'aura aucune propriété. Ce qui signifie que la promesse, que le don, n'est pas une propriété, n'induit pas une propriété. C'est quelque chose que nous avons déjà aperçu à propos de l'histoire d'Adam. Quand j'ai peut-être trop rapidement suggéré que le péché consistait à transformer le don en propriété. Vouloir mettre la main sur ce qui a été donné. Et c'est ce qui est indiqué, me semble-t-il, dans le rapport d'Abraham à la terre. Considérer que je suis propriétaire de cette terre qui m'a été donnée, c'est en quelque sorte rompre l'alliance. Comme ce serait rompre l'alliance que de considérer qu'on est propriétaire du cadeau qu'on a reçu et qu'on puisse aller le revendre sur eBay. C'est vraiment rompre l'alliance. Donc la terre ne vaut que comme signe de l'alliance. Bon, le deuxième objet de la promesse, c'est une descendance, la descendance d'une multitude, donc qui justifie le passage du nom Abraham au nom Abraham. Et c'est cette promesse d'une descendance qui met encore plus à l'épreuve la foi d'Abraham, puisqu'il vieillit sans avoir d'enfant. Il le fait remarquer à Dieu, disant « Bon, tu ne m'as toujours pas donné de descendance. » Dieu réitère en disant « Mais tu auras une descendance qui viendra de ton sang, qui sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au fond de la mer. » Mais Abraham vieillit sans héritier et Sarai, sa femme, devient stérile, atteint l'âge où les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants. C'est ce qui nous conduit à la deuxième partie, la naissance d'Isaac. Naissance d'Isaac que nous allons considérer à travers deux. Le premier que je prends au chapitre 17, verset 15, Dieu dit à Abraham, ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Ah ! Sarai, paraît-il, signifie ma princesse. Sarah signifie princesse. Tu ne l'appelleras plus ma princesse, tu l'appelleras princesse. Enlève ta grosse patte de propriétaire. Bon. Tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Je la bénirai. Et même je te donnerai d'elle un fils. Ce n'est plus le fils d'Abraham. Je la bénirai. Elle deviendra des nations et des rois de peuples viendront d'elle. Abraham tomba la face contre terre et il se mit à rire car il se disait en lui-même, un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter ? Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël, donc l'enfant qu'il a eu de sa servante Agar sur les instances de sa femme, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu reprit, non, mais ta femme, Sarah, te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour être son Dieu et celui de sa race après lui. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va t'enfanter Sarah l'an prochain. Deuxième passage que je voulais lire avec vous, au chapitre 18, verset 9, c'est la visite des trois personnages mystérieux sous le chêne de Mambré que Abraham accueille, ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est dans la tente. » L'autre dit « Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disant « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari, qui est un vieillard ?» Mais Yahvé dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant « Vraiment vais-je encore enfanter, alors que je suis devenue vieille ?» Il n'y a rien de trop merveilleux pour Yahvé. À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Enfin, au chapitre 21, au début du chapitre 21, Yahvé visita Sarah comme il l'avait dit et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham déjà vieux, au temps que Dieu avait marqué. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Abraham circoncit son fils Isaac quand il eut 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans lorsque lui naquit son fils Isaac, et Sarah dit « Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront me souriront. » Quelques passages que je souligne après ces lectures. Manifestement, son fils n'est pas de son sang. C'est même, on insiste là-dessus, le texte insiste là-dessus puisqu'il dit « ta femme te donnera un fils ». Et donc Isaac n'est ni du sang ni de la semence d'Abraham, ce qui, interdit à Abraham d'avoir à l'égard de ce fils une quelconque attitude d'appropriation. Sarah te donnera un fils, et non pas lui va féconder sa vieille femme. Et un article l'an dernier avait fait quelques bruits lorsque Michel Serre, dans Études, avait fait, vous savez que c'était où il y a 2 ans, c'était l'époque de tous les débats sur le mariage pour tous, etc. Et Michel Serre avait fait un article fort intéressant dans lequel il disait « Mais les catholiques devraient être les derniers à défendre l'idée d'une filiation par le sang, d'une hérédité charnelle, d'une famille naturelle, puisque la grande originalité, la grande nouveauté chrétienne et biblique, c'est au contraire de souligner que les enfants ne sont pas des produits naturels issus de familles naturelles. Donc il soulignait dans ce texte que l'Église est la première et sans doute la seule institution qui, dans laquelle la succession ne se fasse pas de père en fils, que l'Église, en recommandant le célibat des prêtres, est bien loin de sacraliser la sexualité naturelle et la reproduction charnelle. Et puis donc qu'il s'agisse de d'Anne et Joachim, de Marie et de Joseph, d'Abraham et de Sarah et d'autres épisodes semblables, il est constamment souligné que la parenté n'est pas charnelle. Michel Serre a raison. J'avais écrit à l'époque un éditorial là-dessus, vous le retrouverez si ça vous intéresse dans le site. La différence, c'est que si dans la foi, les hérédités peuvent être relativisées, c'est au nom du rapport à l'absolu. C'est-à-dire que c'est la relation à Dieu qui permet de relativiser les appartenances héréditaires. C'est la relation à Dieu qui permet de relativiser les fatalités naturelles du sang et de la semence. Et non pas un arbitraire singulier qui permettrait de dire que toutes les solutions sont également possibles dans donc un grand arbitraire. Donc on ne peut relativiser que par rapport à un absolu. Donc oui, ce texte nous dit bien, tes enfants ne sont pas tes enfants. Mais je ne peux dire tes enfants ne sont pas tes enfants que si, dans le même moment, je dis qu'ils sont enfants de Dieu et non pas enfants de personne. Et non pas qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes et qu'ils ont qu'amené leur vie. Ou qu'ils pourraient être loués, fabriqués, etc. Donc, Abraham est donné à Isaac est donné à Abraham et à Sarah et par Sarah. Il est donc clair que Isaac n'est pas le fils d'Abraham, pas plus que la terre n'est la sienne. C'est ce qui nous conduit au troisième point, qui est celui du sacrifice ou du non-sacrifice. Nous verrons ce qu'il convient de dire. Relisons ce texte bien connu de tous, enfin surtout connu à travers ces images. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et il lui dit « Abraham, Abraham ». Chapitre 22. Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Au passage, je rappelle que holocauste signifie un sacrifice dans lequel la victime est entièrement brûlée. C'est pour ça que je trouve l'usage fort maladroit s'agissant de la Shoah. Mais bon. Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque-là, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père. » Il répondit, « Oui, mon fils. » « Eh bien, reprit-il, voilà le feu, voilà le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel, disposa le bois, puis lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom Yahvé pourvoit, en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne Yahvé pourvoit. Sacrifier, c'est une des relations traditionnelles et essentielles du croyant à la divinité. Sacrifier n'a pas pour sens de nourrir un dieu, de satisfaire ses appétits féroces, d'étancher les besoins de sa cruauté. Non, sacrifier signifie que on reconnaît le don. Et si l'agriculteur offre des prémices de ses récoltes, c'est qu'en offrant les prémices de ses récoltes, il reconnaît que bien qu'il ait labouré, engraissé, cultivé, etc., il n'est pas l'auteur ni le propriétaire de cette récolte. Et donc, le sacrifice marque le lien de reconnaissance et d'alliance entre la créature et Dieu. C'est ce qui est bien signifié, Frédéric le rappelait la dernière fois, par la prescription du rachat du premier-né. Alors Isaac est le premier-né et le dernier. Et donc les Juifs sont invités à racheter le premier-né qui est en quelque sorte dû à Dieu et pour donc sceller l'alliance. Le rejet du sacrifice est un thème récurrent dans la Bible. Je cite quelques passages qui sont bien connus. D'abord, le chapitre 1 d'Isaïe. « Que m'importent vos innombrables sacrifices ? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Au sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je ne prends pas plaisir. » Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis ? N'apportez plus d'oblation vaine. C'est pour moi une fumée insupportable. Ça le fait tousser. Noémini, sabbat, assemblée, je ne supporte pas fausseté et solennité. Elles me sont un fardeau que je suis là de porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, moi je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Psaume 51. Psaume 50 d'abord, puis psaume 51. « Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, ni de tes bergeries des boucs, car tout fauve des forêts est à moi. Des animaux sur les montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux du ciel, toute bête des champs est pour moi. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, car le monde est à moi et son contenu. Vais-je manger la chair des taureaux, le sang des boucs, vais-je boire ? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux pour le Très-Haut. » Dans le psaume 51, l'idée est encore explicitée, puisque vous connaissez pour beaucoup d'entre vous ce beau verset 18. « Tu ne prends aucun plaisir au sacrifice, un holocauste tu n'en veux pas. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, broyé. D'un cœur brisé et broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. » Donc la critique du sacrifice est critiquée de deux points de vue ici. D'une part, il est vain de vouloir nourrir Dieu. Donc je n'irai pas te dire si j'ai faim. C'est moi qui te nourris, c'est pas toi. Et c'est moi qui te nourris parce que c'est moi qui suis le maître du monde et c'est moi qui répands sur la terre les animaux, les plantes, etc. Donc de la même manière que l'alliance est l'initiative de Dieu et non pas la réponse à la demande d'Abraham, la nourriture est le don de Dieu et non pas un quelconque don que les hommes feraient à la divinité. Et puis le deuxième accent qui est mis dans cette critique de des sacrifices, c'est l'idée que s'il y a un véritable sacrifice, c'est celui de soi. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, c'est un esprit brisé. Et donc il y a une extériorité toute païenne du sacrifice qui consiste à instrumentaliser des gestes et des choses dans une relation à la divinité et qui est, de manière réitérée, rejetée dans les Écritures. Qui est rejetée dans les Écritures, je le rappelle, jusqu'à l'épisode de Jésus chassant les marchands du Temple. Car Jésus chassant les marchands du Temple, ça ne signifie pas que Jésus est contre le commerce. C'est quand même un peu agaçant d'entendre souvent ces propos, et ça ne signifie pas que Jésus ne veuille pas qu'on vende des vierges barométriques à Lourdes. Non. Si Jésus parle d'un peuple de voleurs et de commerçants, c'est parce que le vol et le commerce, c'est le sacrifice. C'est vouloir faire du commerce avec Dieu. Et ce que chasse Jésus sur le parvis du temple, c'est les bêtes pour le sacrifice. Et l'argent qui est renversé, c'est l'argent que venaient payer les fidèles pour acquérir des bêtes et faire des sacrifices. C'est l'argent qu'ont dû payer Joseph et Marie pour acheter deux tourterelles, sans doute. Et donc, la parole contre les marchands, c'est la parole contre le marchandage avec Dieu, qui, justement, ferait de la relation à Dieu un contrat et non plus une alliance. Et se penserait sur le modèle du contrat, c'est-à-dire du donnant-donnant, ou du prenant-prenant, parce qu'un contrat, c'est plutôt un prenant-prenant qu'un donnant-donnant. Et ceci, d'ailleurs, s'inscrit dans, je le rappelle rapidement, je veux bien revenir dessus si je ne suis pas assez explicite, ceci s'inscrit dans les paroles de Jésus contre le temple, comme justement un lieu d'appropriation de Dieu. Donc le temple, c'était le lieu où tous les jours étaient rendus des sacrifices. Et donc il y a une opposition entre le temple et la synagogue. Le temple, c'est le lieu du sacrifice, la synagogue, c'est le lieu de la parole. Et Jésus enseigne dans les synagogues, et dans le temple, il prononce des paroles qui passent pour sacrilège contre le temple, dont on s'émerveille qu'il ait été construit par Hérode avec l'argent de l'occupant. Or, vous avez aussi, tout au long des Écritures et de l'Ancien Testament, une série de rappels contre le temple. En particulier, le passage dans lequel Dieu parle à David par l'intermédiaire du prophète et lui dit « Tu veux me construire un temple ? Mais c'est moi qui te ferai une maison. » Je n'ai pas besoin de temple, dit Dieu. J'ai toujours été sous une tente. J'étais très bien sous une tente, dit Dieu. Tabernacle, ça veut dire tente. Pourquoi est-ce que tu veux me construire un temple ? Pour me rendre prisonnier, en quelque sorte. M'a raisonné. Et donc, l'attitude du Christ par rapport aux marchands, donc c'est le rejet de la relation sacrificielle, rejet de la relation sacrificielle qui est évidemment accompli sur la croix. En quoi Abraham est-il ici le père de la foi ? En ce que, au moment même où il se soumet et accepte de sacrifier son fils, il croit à la promesse. La foi d'Abraham n'est pas étonnante dans ce qu'il accepte de lever le couteau. La foi d'Abraham est étonnante dans ce que, au moment où il lève le couteau, il croit encore à la promesse. C'est-à-dire ce qu'il accepte de perdre, il croit encore que cela se réalisera. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant « Ce qui est dur, c'est de croire à une promesse. » Et ce qui est dur, c'est de croire à une promesse au moment même où je crois tout perdre. Et au moment même où j'ai l'impression qu'il me faudra tout donner. Eh bien oui, d'un certain point de vue, il me faut tout donner pour tout recevoir. Mais je ne peux tout donner que dans la certitude de tout recevoir, et non pas comme un marchandage, où je dirais, puisque j'ai tout donné, je mérite bien de tout recevoir avec tous les efforts que j'ai faits. Et donc, d'un même geste, Abraham renonce à Isaac et le reçoit une deuxième fois. Et il ne peut le recevoir une deuxième fois qu'à condition qu'il y ait renoncé. Le texte insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas son fils et qu'il faut qu'il se défasse de toute velléité de penser que c'est son fils, celui par lequel adviendra une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au fond de la mer. Voilà ce qu'il y a d'étonnant dans la foi d'Isaac. En un certain sens, c'est d'Abraham. En un certain sens, c'est le sacrifice par excellence. Non pas, donc C'est pour ça que dans le titre, il y a une suggestion, le sacrifice interdit. Bon, il y a une suggestion qui se voulait spirituelle. Mais au fond, plutôt que d'interdire le sacrifice, c'est en manifester la dimension fondamentale. Et qui n'est donc pas l'oblation des choses que l'on pourrait évaluer sur une balance en termes d'échanges commerciaux, mais qui est le véritable renoncement à mettre sa main de propriétaire sur ses œuvres. Ce qui n'est facile pour personne. Et qui suppose que ses œuvres soient confiées à Dieu. C'est ce qui me conduit à la quatrième partie, l'éloge d'Abraham. Nous allons rapidement parcourir quelques pages décisives de la philosophie chez Kierkegaard. Dans un livre dont je vous recommande la lecture pour ceux qui sont accoutumés à des lectures un peu exigeantes, mais pas difficiles, mais c'est exigeant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment suivre ligne à ligne. Quoi. Si vous avez un téléphone portable dans les mains, pas la peine d'essayer. Mais ce livre s'appelle « Crainte et tremblement ». Et dans ce livre qui s'appelle « Crainte et tremblement », Kierkegaard médite donc sur la foi d'Abraham et sur la figure d'Abraham. Parcourons rapidement le texte qui vous a été distribué, qui est justement une partie du texte du chapitre intitulé « Éloge d'Abraham ». Non, nul ne passera de ceux qui furent grands. Chacun, selon sa manière et selon la grandeur qu'il aima. Car qui s'aima lui-même fut grand par sa personne. Qui aima autrui fut grand en se donnant. Pourtant, qui aima Dieu fut le plus grand de tous. Les grands hommes seront célébrés dans l'histoire. Chacun d'eux fut grand selon qu'il espéra. L'un fut grand dans l'espoir qui attend le possible, un autre dans l'espoir des choses éternelles, mais celui qui voulut attendre l'impossible fut le plus grand de tous. Les grands hommes seront gardés dans la mémoire, mais chacun d'eux fut grand suivant l'importance de ce qu'il combattit. Car qui lutta contre le monde fut grand en triomphant du monde. Qui lutta contre lui-même fut grand par sa victoire sur lui-même. Mais qui lutta contre Dieu fut le plus grand de tous. Tels furent les combats livrés sur cette terre, homme contre homme, un contre mille, mais celui qui lutta contre Dieu fut le plus grand de tous. Tels furent les combats engagés ici-bas. L'un vint à bout de l'autre en usant de sa force, l'autre désarma Dieu par sa propre faiblesse. L'on en vit s'appuyer sur eux-mêmes et triompher de tout, d'autres, forts de leur force, tout sacrifiés. Mais celui qui crut en Dieu fut le plus grand de tous. Il y eut des hommes grands par leur énergie, leur sagesse, leur espérance et leur amour. Mais Abraham fut le plus grand de tous, grand par l'énergie dont la force est faiblesse, grand par la sagesse dont le secret est folie, grand par l'espoir dont la force est démence, grand par l'amour qui est la haine de soi. C'est par la foi qu'Abraham quitta le pays... Allons à quatre paragraphes de la fin. C'est par la foi qu'Abraham reçut la promesse que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Le temps passait, la possibilité restait, Abraham croyait. Le temps passa, le soir fut à son déclin, et cet homme n'eut point la lâcheté de renoncer à son espoir. Ça a de la gueule, les gens qui continuent à s'attacher à un espoir, alors même que tout est impossible. Mais il y a plus grand encore, c'est s'attacher à un espoir quand tout paraît impossible, et le croire possible. On admire celui qui ne renonce pas à un espoir impossible. Celui qui ne renonce pas à un amour impossible, par exemple. Tu sors de la gueule. Au soir de ses jours, il continue de rêver à cet amour impossible. Il continue de tenir debout par cet amour impossible. Mais plus grand encore est celui qui croit à la possibilité de l'amour. Celui-ci, il a la vraie audace. On comprend facilement celui qui renonce. On comprend beaucoup plus difficilement celui qui espère. Abraham ne nous a pas laissé de lamentation. Il n'a pas tristement compté les jours à mesure que le temps passait. Il n'a pas regardé Sarah d'un œil inquiet pour voir si les années créaient des rides sur son visage. Il n'a pas arrêté la course du soleil pour empêcher Sarah de vieillir et son attente avec elle. Pour apaiser sa peine, il n'a pas chanté à Sarah un triste cantique. Il devint vieux. Sarah fut raillée dans tout le pays. Cependant, il était l'élu de Dieu, l'héritier de la promesse. que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. N'eût-il pas mieux valu qu'il ne fût pas l'élu de Dieu ? Qu'est-ce donc qu'être l'élu de Dieu ? C'est se voir refuser au printemps de la vie le désir de la jeunesse pour en obtenir l'exaucement dans la vieillesse après de grandes difficultés ? Mais Abraham crut et garda fermement la promesse à laquelle il aurait renoncé s'il avait chancelé. Il aurait alors dit à Dieu, « Ce n'est peut-être pas ta volonté que mon désir se réalise. Je renonce donc à mon vœu, mon unique, où je mettais ma félicité. Mon âme est droite et ne recèle pas de secrète rancune devant ton refus. » Dans ce cas, il n'aurait pas été oublié. Il en aurait sauvé beaucoup par son exemple, un peu héroïque. Mais il ne serait pas devenu le père de la foi. Car il est grand de renoncer à son vœu le plus cher, mais plus grand de le garder après l'avoir abandonné. Il est grand de saisir l'éternel, mais plus grand de garder le temporel après y avoir renoncé. Je décris deux aspects de cet éloge qui mériterait qu'on s'y attardât davantage. Le premier, c'est la différence entre la résignation et la foi. Un homme peut avoir sans doute assez de grandeur d'âme, assez d'abnégation pour renoncer au bien fini auquel il est attaché. C'est souvent comme ça que les gens comprennent les vœux, vœux de pauvreté, vœux de chasteté, vœux d'obéissance. Ça serait renoncer à des biens finis pour l'infini. On peut comprendre cet homme, on peut l'admirer. On comprend aussi bien, d'ailleurs, celui qui se détourne de l'infini et dit « je vais tranquillement me repaître du fini qui est plus sûr » et qui digère tranquillement les satisfactions qu'il recueille dans le fini qui est plus sûr. Celui-ci, on le comprend. Mais la foi d'Abraham consiste à vouloir et à savoir et à croire à la réalisation de l'infini dans le fini. Vouloir et croire à la réalisation de la promesse dans la contingence de l'événement humain. Donc, Madame Bovary croit à l'amour avec un grand A. Bon, et elle s'y brûle les ailes. Ça a de la gueule. Dans son petit coin de province, ça a de la gueule. Ça donne une âme quand même plus ardente que celle de son bovin mari, qui lui ne croit qu'à l'amour avec un petit A. Et s'endort à la sieste. Et donc, suis-je condamné à avoir à choisir entre l'amour avec un grand A et l'amour avec un petit A ? Eh bien, la foi, c'est de croire que l'amour avec un grand A se réalise dans l'amour avec un petit A. Et à croire que la promesse inouïe s'accomplira dans l'ordre même de la finitude. Et c'est pourquoi Abraham ne donne pas du tout une figure de la résignation. On aurait pu comprendre qu'Abraham dise « Allez, c'est dur, Dieu me demande quelque chose de difficile, mais j'y vais. » Lisez Crainte et tremblement, ça commence par quatre récits possibles, c'est admirable. Quatre récits possibles de l'histoire d'Abraham, c'est admirable. On pourrait dire « Allez, un peu de courage, je lève mon couteau, je ferme les yeux et j'y vais. » Non. Il croit à la réalisation de la promesse. On pourrait comprendre qu'Abraham dise « Ouf, Dieu me demande de sacrifier Isaac, mais c'est symbolique. Je vais mettre un euro à la quête et ça suffira. Dieu se contentera des symboles. » Non, 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 Dieu ne se contente pas des symboles. Et il n'est pas question que le don ou le contre-don soit symbolique. On pourrait comprendre qu'Abraham se révolte et disent « Donner, c'est donné, repris, c'est volé. » Tu m'as donné Isaac, c'est la révolte romantique, hein, c'est la belle révolte, tu m'as donné le fini, contre toi, je garde ce fini. Et je le retournerai contre toi, comme justement ma propriété avec laquelle je vais pouvoir te défier. Eh bien, aucune de ces réponses n'est celle d'Abraham. Ni il ne lève le couteau avec résignation, ni il ne triche en disant « c'est symbolique », ni il ne se révolte en gardant pour lui Isaac. Au même moment, il lève le couteau et croit à la réalisation de la promesse. Deuxième trait de cet éloge d'Abraham, de ce caractère inouï, de l'histoire d'Abraham, c'est celui que souligne particulièrement Kierkegaard, car c'était une question pour laquelle, par ailleurs, il était intéressé, c'est la solitude d'Abraham. Solitude qui manifeste dans le silence d'Abraham. Silence d'Abraham à l'égard de Sarah, je reviendrai, silence d'Abraham à l'égard des serviteurs, silence d'Abraham à l'égard d'Isaac, et ce silence tient à l'impossibilité où est Abraham de faire entendre une plainte. On n'a pas de chant de plainte d'Abraham, on n'a pas de chant de deuil d'Abraham, de complainte quelconque, car pour qu'Abraham puisse se plaindre, il faudrait qu'il y ait un public. On connaît d'autres exemples de sacrifices par des pères, celui de Jephté, et dans la tradition grecque, celui d'Agamemnon. Agamemnon sacrifie Iphigénie aux yeux de tous, devant l'armée impatiente qui espère que les vents lui seront favorables. Et au moment où Agamemnon sacrifie sa fille, tous compatissent avec Agamemnon. Donc Agamemnon est une incarnation de la nation, une incarnation du pouvoir, visible de tous et que tous peuvent comprendre. Alors que le geste d'Abraham est rigoureusement incompréhensible. Il ne sauve pas un peuple, il le perd. Le seul peuple qui lui était promis, voilà qu'il semble le perdre complètement. Et c'est pourquoi Abraham est un individu. La relation, alors Kierkegaard développera ce point, la relation à la société fait le héros. Donc Agamemnon est un héros aux yeux de la société. Agamemnon est un héros. Abraham n'est pas un héros parce que aucune collectivité n'est là derrière pour lui faire l'éloge de son rôle, de son statut. Mais au contraire, donc, lorsqu'il fait l'ascension de la montagne de Moria, il fait un geste qui ne peut être compris que dans la confidence entre Dieu et lui, qui ne peut être compris que dans cette solitude creusée par le rapport à l'absolu. Devant Dieu, chacun d'entre nous est rigoureusement seul, y compris les époux, y compris les frères, y compris une assemblée. Et on ne peut pas s'imaginer qu'une assemblée est une espèce de collectivité qui va chanter des héros. Et ce paradoxe, donc c'est ce que Kierkegaard appelle le paradoxe, c'est-à-dire ce qui met sans cesse la raison devant un étonnement, ce paradoxe est celui qui ne peut avoir de sens que dans la relation à l'absolu. Et si Abraham est le père de la foi, si Abraham est celui qui est pour nous, comme je le disais au début, la source et le modèle de la foi, c'est dans ce que nous avons en lui l'illustration la plus pure, la plus parfaite, en dépit du caractère parfaitement immoral du personnage, de ce que peut être l'acte de foi. C'est-à-dire, comme le disait Saint Paul que je citais tout à l'heure, la certitude des biens que l'on espère.